Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, l'historiographie a régulièrement tendance à enfermer les événements entre deux dates. Il en est ainsi de la Première Guerre mondiale qui débute par la déclaration de guerre à la France par l'Allemagne le 3 août 1914, une guerre qui se termine officiellement le 11 novembre 1918 par l'armistice. La date du 3 août 1914 en soi est contestable car c'est oublié ce long mois de juillet 1914, si riche en événements, des événements admirablement bien décrits en son temps par Pierre Renouvin. La date du 11 novembre 1918 est tout aussi, ma foi, contestable car il s'agit juste d'un armistice, c'est-à-dire d'une suspension d'armes, ce qui signifiait en somme, que si la paix n'avait pas été signée, les hostilités entre les belligérants auraient pu très bien reprendre. Alors oui, naturellement, il faut bien des repères historiques, il faut bien des jalons, mais vous ne verrez plus de la même façon la date du 11 novembre 1918 en considérant le fait que 5 millions de soldats français durent attendre longtemps avant d'être démobilisés. Pour eux, la guerre n'était pas terminée. Sans compter le fait que plusieurs autres soldats français, on a tendance à l'oublier, continuèrent leur avancée pour fouler le sol allemand, récupérer d'abord l'Alsace et la Lorraine et contrôler ensuite la fameuse rive gauche du Rhin et ses trois têtes de pont, Mayence, Cologne et Koblenz. C'est cette histoire, l'histoire de ces soldats en attente de démobilisation et de ces soldats qui furent chargés d'occuper une partie du territoire ennemi, que Bruno Cabanne va nous présenter aujourd'hui. Bruno Cabanne, bonjour.
Bonjour Christophe Dickès.
Alors vous êtes ancien et élève de l'École normale supérieure, vous êtes docteur en histoire, maître de conférences à Limoges et à sciences politiques. Vous avez publié cette année un ouvrage, La victoire endeuillée, la sortie de guerre des soldats français 1918-1920, paru aux éditions du Seuil dans la collection Univers historique. Cet ouvrage a remporté un prix, le prix, un des prix de l'Académie des sciences morales et politiques, le prix Gustave Chédest-Ange. C'est un prix annuel qui est destiné, je cite, à récompenser un ouvrage d'histoire documentaire se rattachant directement à la méthode des chartistes. Alors,
chartiste, je suis très flatté de le recevoir, d'autant plus flatté de le recevoir.
Les sources sont vraiment très importantes pour nous, nous les évoquons à chaque début d'émission, et il y a chez vous, dans votre livre, une source primordiale qui est le contrôle postal. Qu'est-ce que le contrôle postal ?
Alors, d'abord, il faut préciser une chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'une censure. Il s'agit d'un élément d'évaluation de l'opinion des soldats, qui a été mise en place très progressivement, mais disons à partir de 1915, amélioré en 1916, qui est un instrument extrêmement précis, en même temps extrêmement lourd, puisqu'il concerne à peu près 180 000 lettres par semaine. Donc on imagine le travail considérable que ça peut représenter, puisque ces lettres sont ouvertes, lues, étudiées par les services du contrôle postal et renvoyées ensuite à leur destinataire, naturellement, si elles ne contiennent pas d'éléments compromettants pour la sécurité nationale. Donc on a ainsi, semaine après semaine, pour l'ensemble des régiments français, une évaluation globale du moral des troupes, en fonction d'un certain nombre de critères, l'appréciation de la nourriture, l'appréciation des conditions climatiques, l'appréciation de l'évolution sur le terrain, l'appréciation de l'ennemi, mais aussi, et ce qui m'a beaucoup été utile, des citations de lettres jugées représentatives, avec en outre un pourcentage équivalent donc effectivement à cette représentativité. Donc on a naturellement une source qui est contestable par certains aspects. Les soldats qui écrivent savent qu'ils vont être lus, donc ils n'écrivent pas absolument sans doute tout ce qu'ils pensent. Il y a aussi des phénomènes d'autocensure qui sont liés au fait que les soldats ne veulent pas affoler leur famille et cherchent essentiellement à les rassurer ou taisent les aspects les plus durs de la guerre. Néanmoins, on a vraiment un outil très remarquable qui jusqu'ici était peu étudié. En fait, c'est Jean-Noël Jeannonnet, dans un article de la fin des années 60 qu'il avait repéré, commencé à travailler sur ce thème. Et il y a eu simplement, à ma connaissance, une thèse sur l'année 1916 à partir du contrôle postal. Mais nous avons été finalement assez peu nombreux à nous intéresser à cette source qui reste encore extrêmement riche et sur laquelle peuvent se pencher bien d'autres chercheurs.
Ça se présente sous forme de fiches, c'est cela ?
Ce sont des rapports sur papier, des quantités considérables de rapports qui sont au service historique de l'armée de terre à Vincennes, tout à fait accessibles et donc d'une richesse absolument inouïe puisqu'ils permettent globalement de saisir donc le moral des troupes, pour faire simple, depuis 1915-1916 jusqu'au retour des soldats, ce qui était effectivement mon sujet, c'est-à-dire pour les dernières classes début 1920.
Vous gardez bien, vous le dites dans votre livre, une prudence méthodologique. Vous arrivez malgré tout à lire entre les lignes ?
J'essaie. J'essaie surtout de ne pas oublier qu'une lettre, c'est un échange entre personnes et qu'on ne peut pas comprendre cette source sans la replacer dans une forme de protocole épistolaire qui est en fait assez largement, bien sûr, le protocole du 19e siècle, sur lequel ont travaillé Cécile Dauphin, Philippe Lejeune, enfin bien des chercheurs, des littéraires, mais aussi un protocole qui est le protocole de l'écriture de guerre, où effectivement, comme je vous l'ai dit, on cherche à rassurer, à protéger ses proches.
Il est difficile de sonder les reins et les cœurs.
Très difficile, oui, très difficile. Très difficile, d'autant qu'on n'a pas le contact direct avec les lettres, hein, soyons clairs. On a simplement le filtre qui nous reste, avec énormément de choses, bien entendu, mais pas le contact directement avec les lettres. On essaie néanmoins de percevoir quelle peut être la sensibilité de ces soldats, d'autant que, bien évidemment, cette source n'est pas la source unique, et que j'ai pu la croiser avec bien d'autres sources autres, notamment des sources littéraires, des récits rétrospectifs, des mémoires de soldats, des journaux de tranchées, enfin tout.
Vous citez Bordeaux,
bien sûr,
Londres.
Oui, donc toutes sortes d'écritures de guerre qui sont dans une autre forme de temporalité, qui ont un autre rapport à la guerre, qui sont parfois rétrospectives, mais qui complètent, permettent de prolonger, de nuancer tout ce que j'ai pu écrire par ailleurs sur le contrôle postal.
Alors venons-en, si vous le voulez bien, Bruno Cabanne, à la chronologie, non pas au 11 novembre lui-même, mais au jour précédent l'armistice. Comment se passent les derniers mois du soldat français ? Sent-il la victoire venir, disons à partir du mois de juillet 1914?
Oui, c'est ça. Vous avez raison de dire que le basculement se fait à peu près au mois d'août. C'est fait au mois d'août avec d'abord la progression qui reprend. On est aussi à un moment, nous l'oublions pas, où les Français ont cru perdre la guerre à la fin du printemps 18. Il y a eu une sorte de moment de basculement et où Paris a été menacé. Et là, effectivement, le retournement se fait pour les soldats français à l'été 18, avec la perspective d'avancer, des prisonniers qui sont faits, et puis le sentiment aussi que les Américains apportent une aide considérable et que si la guerre n'est pas finie, il se passe au moins quelque chose et la victoire semble possible. Néanmoins, ne l'oublions pas, au moment même où l'armistice intervient, des plans sont organisés pour une grande offensive qui doit avoir lieu à la fin 1918, début 1919, grande offensive en Lorraine notamment, qui aurait été extraordinairement meurtrière vraisemblablement étant donné l'intensité qu'elle devait prendre. Et donc, dans la perspective de l'état-major français, finalement, ça n'est pas une surprise complète, mais on peut considérer effectivement que la perspective de paix était beaucoup plus à long terme.
Quel est l'état d'esprit à cette époque des soldats ? Ils attendent vraiment cette victoire ? Ils ont au fond de l'espérance ou ils restent, j'allais dire, dans leur quotidien avec tout ce que cela comporte de difficultés ?
Vous avez raison d'évoquer aussi cette deuxième possibilité, parce que naturellement, la possibilité de progresser est considérable. On a l'impression effectivement que les sacrifices consentis ont désormais un sens, qu'on va pouvoir parvenir à la victoire tant attendue, mais en même temps, il y a une forme d'irréalité de cette victoire. On ne sait pas exactement quelle forme elle va pouvoir prendre. Et en outre, bien évidemment, il y a l'usure des 4 années de guerre, le poids des deuils que j'ai essayé de décrire, l'espèce d'épuisement général, d'autant que les conditions climatiques sont extrêmement mauvaises à l'automne 1918. Et donc tout ça pèse considérablement sur le poilu, qui est tout sauf enthousiaste à l'époque.
Donc il y a une position d'attente.
Oui. Oui, absolument.
Il y a une position d'attente. Alors, il existe aussi une peur, vous la décrivez très bien, face aux soldats de la dernière chance. Comment décrire cela ?
La peur, elle est double, c'est-à-dire qu'elle est liée d'abord à des rumeurs, qui sont des rumeurs très anciennes, sur la duplicité des Allemands, sur leur pratique rusée de la guerre. Et à mesure que les soldats français avancent dans des territoires conquis par les troupes allemandes, d'abord, elles découvrent des paysages détruits. Il est très surprenant de voir l'importance, après toutes les horreurs de la guerre, que ces hommes ont pu connaître pendant 4 ans, l'importance que peut revêtir la découverte de vergers mutilés, d'arbres coupés au pied, ce qui scandalise littéralement les soldats, de maisons détruites, et des, donc cette politique de la terre brûlée en quelque sorte, hein, qui a été pratiquée par les troupes allemandes. Et à cette politique de la terre brûlée est liée une peur, qui est la peur des pièges. On parle beaucoup de sources ou de puits qui auraient été empoisonnés, de maisons qui contiendraient des pièges et qui représenteraient un danger très important pour les soldats. Et puis, en outre, il y a la peur de la mort stupide au dernier moment, avant même que l'armistice intervienne. Et cette peur du dernier mort de la guerre est très présente dans les correspondances. Les hommes écrivent souvent à leurs proches, nous avons tenu jusque-là et maintenant, vivement qu'on arrive à la fin, bien sûr, et espérons qu'on ne sera pas tué au dernier moment. Mmh.
Donc, je reçois Bruno Cabanne, auteur du livre « La victoire endeuillée, la sortie de guerre des soldats français 1918-1920 aux éditions du Seuil » et nous évoquons donc les quelques jours précédant l'armistice. Il y a un mot dans votre conclusion qui m'a beaucoup marqué, c'est, vous décrivez ces territoires dévastés et au fond, même en fin de guerre, la violence est omniprésente.
Oui. La violence, non seulement la violence subie, hein, la découverte, je vous ai dit, des paysages détruits par les Allemands, mais la violence promise aux Allemands. C'est l'une des découvertes peut-être les plus troublantes de la lecture de ce contre-postal, c'est la mobilisation à l'extrême et jusqu'au bout des troupes françaises. On présente souvent les troupes françaises comme épuisées, je vous l'ai dit, mais aussi, et à mon avis c'est à tort, assez compréhensives à l'égard des Allemands qui auraient souffert autant qu'eux. En fait, on découvre à la lecture du contrôle postal, au contraire, des hommes extraordinairement remontés contre l'ennemi, désireux d'en découdre, désireux d'envahir l'Allemagne. Il y a l'idée absurde que l'Allemagne n'ayant pas été foulée sur son sol, elle ne sait rien de la guerre, et donc il faut lui montrer ce que c'est. Mmh. Il faut lui montrer ce que c'est en détruisant aussi ces maisons et aussi à travers des menaces de vengeance, notamment à l'égard des femmes. Vous avez explicitement des menaces de viol énoncées dans les lettres, qui sont naturellement extrêmement troublantes pour le lecteur, d'autant qu'elles se font dans des termes extrêmement crus et extrêmement durs. Mmh. Donc cette violence à l'égard de l'ennemi en 1918, que l'historien anglais John Horne avait déjà un petit peu expliqué à travers sa notion de remobilisation de 1918, elle est tout à fait présente dans les correspondances. Mmh.
Alors, est-ce que l'armistice va apaiser ces esprits? C'est ce que nous verrons, Bruno Cabanne, si vous le voulez bien, après une première pause. À tout de suite.
Napoléon n'aura plus de secret pour vous à l'écoute des nombreuses émissions de Jean Tullard sur Canal Académie. Écoutez Jean Tullard, historien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, en libre téléchargement sur canalacademie.com.
Nous reprenons le cours de notre émission. Un jour dans l'histoire reçoit Bruno Cabanne, auteur du livre « La victoire endeuillée » et nous évoquons les lendemains officiels de la guerre, les lendemains de l'armistice. Cet armistice est proclamé le 11 novembre à 11h du matin, très exactement. Comment Bruno Cabanne distinguait cette réalité de l'armistice de la rumeur? Puisque, au fond, les soldats ont pu se dire, au moment où on leur déclarait l'armistice, il ne s'agit que d'une rumeur, et ce n'est pas vrai.
Oui, effectivement, il faut se méfier des reconstructions rétrospectives, notamment à notre échelle d'historien. Et j'ai essayé de suivre un peu les journaux de marche des régiments pour voir quelle pouvait être l'approche qu'on avait eue les soldats. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a naturellement des soldats qui sont relativement bien informés lorsqu'ils sont en première ligne avec des ravitailleurs, par exemple, qui leur apportent les nouvelles. Ça, c'est souvent comme ça. Hein. Ce sont ceux qui apportent le plus souvent les nouvelles quand ils sont reliés à l'arrière d'une manière ou d'une autre. En revanche, toutes les unités qui sont en mouvement, il y en a un certain nombre qui sont en mouvement le 11 novembre, elles apprennent l'armistice bien souvent au dernier moment. Et avec, effectivement, ce que vous dites, une impression qu'il s'agit de quelque chose d'irréel. D'abord parce qu'effectivement, fondamentalement, et Marc Bloch l'avait très bien vu dans son très bel article sur les fausses nouvelles de la guerre, le monde des tranchées est un monde du rumeur. Il s'était habitué à ce fonctionnement-là de la formation. Et puis d'autre part, je crois que dans l'état d'esprit de ces combattants de 14, l'armistice est une sorte d'horizon ultime attendu pendant très longtemps, mais qui a une forme d'irréalité qu'on ne peut pas comprendre véritablement quand il arrive. Très souvent, mes soldats dans leur correspondance écrivent « Ah, c'était donc ça l'armistice !» et incapables donc de décrire à leurs correspondants, à leur famille, ce qu'ils ont véritablement reçu. Parce que c'est indicible. Parce que l'armistice, c'est d'abord essentiellement le silence qui se fait sur le champ de bataille.
Alors justement, venons-en au silence. Oui. Vous avez très très belle page sur le bruit, sur les bruits de la guerre. Les bruits de la guerre s'estompent et s'ensuit un silence. Et ce silence est parfois brisé par, enfin non pas brisé, mais j'allais dire transfiguré par le son des cloches. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus ?
Vous avez raison de rappeler que l'artillerie a dominé le paysage sonore des combattants français en 14-18, provoquant des traumatismes inouïs. Au-delà de la peur d'être frappé directement par un obus, vous savez, ça représente 70% des blessures, les obus à l'époque, c'est considérable. Et bien évidemment, lorsque les hommes sont frappés directement, le corps disparaît et volatilisé. Il y a une citation de Paul Dubrul, qui est un père jésuite qui a combattu à Verdun.
Je me permets effectivement de vous la lire. « Quand nous entendions le sifflement au loin, tout notre corps se contractait pour supporter les vibrations excessivement puissantes de l'explosion, et à chaque fois, c'était une nouvelle attaque, une nouvelle fatigue, une nouvelle souffrance. À ce régime, les nerfs les plus solides ne résistent pas, mourir d'une balle n'est rien, notre être reste intact, mais être démembré, mis en morceaux, réduit en bouillie, c'est une crainte que la chair ne peut supporter et qui est l'essence même de l'immense douleur causée par les bombardements. »
Voilà. Bon, c'est exactement ça, effectivement, cette impression de... ce fracas sonore et cette peur du démembrement et donc de la disparition totale. Or, brutalement, c'est effectivement un silence complet qui se fait sur le champ de bataille. Et comme vous l'avez dit, peu à peu, lentement, des cloches qui se mettent à sonner la victoire. Or, il faut bien voir que pour ces hommes, les derniers sons de cloches qu'ils ont entendus le plus souvent, ce sont les sons de cloches de 1914, de l'annonce de la mobilisation. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, disent que ce sont des sons de cloches beaucoup plus agréables à entendre en 1918 que ceux de 1914, naturellement. Et beaucoup évoquent effectivement le tressaillement, l'émotion que tout ça a pu représenter. Dans toutes ces régions du front, les cloches se sont tues pendant 4 années, soit que les clochers étaient détruits, soit que les Allemands aient enlevé les cloches. On a eu très nombreuses cloches qui ont été volées pour être ensuite fondues, naturellement, pour l'armement. Les quelques cloches qui restent sonnent donc l'armistice, et c'est quelque chose de particulièrement fort pour tous ces hommes.
Il y a très rarement des cris de joie.
Très rarement, parce que c'est le deuil qui domine. Les premiers gestes que font les soldats au moment du 11 novembre, d'abord c'est de sortir avec beaucoup de précautions des tranchées, inquiets qu'ils sont des tireurs en face d'eux. On n'a aucune confiance dans les tireurs allemands. Et on imagine en outre qu'ils peuvent très bien ne pas avoir été prévenus. Et puis il y a certaines régions en plus, où, notamment autour de Charleville-Mézières, où les combats ont été féroces jusqu'à la fin. Et la première chose qu'on fait, c'est donc de repérer les cadavres des camarades qui sont abandonnés sur le No Man's Land, souvent depuis des semaines et des semaines, et de les enterrer en plantant des croix de bois. Donc le deuil est vraiment le sentiment dominant.
Et il y a, avant de venir approfondir le sentiment du soldat, vous décrivez quasiment minute par minute, à plusieurs endroits, ce qu'il se passe peu avant cette fameuse sonnerie de 11h du matin qui sonne la fin de la guerre, en tous les cas la suspension d'armes. On tire jusqu'à la dernière minute ?
Oui, dans certaines régions, oui. Dans certaines régions, notamment à Charleville-Mézières. Vous savez, là aussi, ce sont finalement des épisodes qu'on a un peu oubliés, mais le repli de l'armée allemande, fin 1918, était un repli extraordinairement violent. On a très peu travaillé encore sur ces aspects-là et je n'ai pas eu le temps dans ma thèse de développer beaucoup ça, mais on se rend compte maintenant des destructions qui ont été commises et de la résistance de l'armée allemande en dépit de son épuisement jusqu'au bout. Et notamment donc effectivement à Charleville-Mézières, où là on se bat jusqu'à la dernière minute, où on utilise, semble-t-il, des gaz contre la population civile ou ceux qui restent encore dans Charleville, et où les combats sont d'une violence absolument inouïe.
Il y a, je me permets, une nouvelle citation. Les obus écrasés sur le sol, la mitrailleuse débitait sa chanson de mort, 10h45. Une salve de 150 sabats sur Don Le Ménil, 10h57. Les mitrailleuses tirent des deux côtés, 11h, là-bas, au bout de la passerelle, un clairon invisible a sonné. Cessez le feu, levez-vous, au drapeau. Et soudain, de la terre de France, des corps invisibles qui se sont blottis dans son sein pour échapper à la mort, montent une vibrante marseillaise, saluée en face par les cris des Allemands qui sortent de leurs abris et agitent leurs armes. C'était la fin. Il y a ce clairon qui est lui aussi omniprésent sur tout le front.
Pas sur tout le front, mais effectivement, la sonnerie de l'armistice est une sonnerie un peu rituelle, effectivement. Et il y a eu ensuite une sorte d'idéalisation du clairon cellier qui aurait sonné le premier l'armistice et qui est évoqué dans de très nombreuses cérémonies du 11 novembre dans les années 20 et dans les années 30.
Il y a vraiment une émotion à travers vos citations. Est-ce que vous rencontrez les pleurs au moment de cette sonnerie ?
Pas tellement, c'est-à-dire que les hommes disent, une fois encore, hein, on est dans une économie de la correspondance, on essaie d'exprimer ses sentiments avec une forte retenue, ne remettons pas notre affectivité à nous, notre manière d'exprimer nos sentiments, sans doute avec une certaine liberté hein, dans notre société, sur des sensibilités très anciennes, elles ont presque un siècle, qui naturellement n'ont pas du tout le même comportement. Mais néanmoins, les hommes le plus souvent disent que l'émotion est telle qu'ils n'arrivent même pas à pleurer. Ils ont le sentiment d'étouffement, la joie est là, mais elle n'arrive pas à sortir. Et finalement, ils sont bouleversés, mais incapables aussi bien de l'exprimer sur leur visage qu'à travers leurs mots.
Bouleversement, silence, vraiment ce silence est omniprésent. Il y a aussi une stupeur,
oui.
vous utilisez le mot, et on a l'impression, malheureusement, qu'il existe une fracture entre ce front silencieux et cette arrière qui fait la fête.
Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'il fait la fête. Il a aussi une nuance, enfin, globalement, c'est effectivement. Les soldats sont très choqués de ce que leur famille raconte des célébrations de l'armistice à l'arrière, notamment à Paris, où on se réjouit beaucoup, où il y a des bals populaires, où il y a des grands défilés de civils, et de choses. D'abord, les soldats ont le sentiment que ce sont eux qui ont fait la guerre et pas les civils. Et vous savez, d'autres comme moi, bien avant, ont travaillé sur ces questions-là, mais la distance entre les civils et l'arrière, même si les solidarités existent entre les civils et le front, la distance entre les civils et le front est très importante durant toute la guerre, même si les solidarités existent. Et on le voit notamment au moment du 11 novembre, lorsque les combattants ont un sentiment profond d'incompréhension de la part des civils de ce qui se passe, de ce qui s'est joué véritablement sur le front, avec le sentiment donc, que ce sont eux qui ont fait la victoire, et le sentiment qu'on se réjouit un peu tôt, avant même le retour.
Vous dites cette retenue, ce silence et cette fracture avec l'arrière est l'expression d'une volonté, celle d'être reconnu. Le soldat n'est pas reconnu en 1918 ?
Il est héroïsé, mais il n'est pas reconnu en tant que tel. C'est un des grands paradoxes, c'est-à-dire qu'il y a un discours officiel qui héroïse naturellement les combattants de la nation, ceux qui ont apporté la victoire, mais dans le même temps, toute la démobilisation manque une partie de l'économie de la reconnaissance. Les manifestations concrètes de la reconnaissance aux soldats sont très en dessous de ce qu'ils pouvaient attendre.
Vous le répétez plusieurs fois dans votre livre, on a tendance, et d'ailleurs dans votre conclusion, vous insistez à nouveau sur cette question, c'est une armée en deuil et on a tendance à l'oublier.
Oui.
Malgré la victoire, ça reste une armée en deuil.
C'est une armée qui est profondément marquée par cette mort des frères d'armes. C'est quelque chose là aussi qui a été très longtemps négligé. Vous savez, le deuil, très difficile naturellement de travailler en tant qu'historien sur le deuil. Ce qu'ont fait un certain nombre d'historiens récemment, c'est de distinguer ce qu'ils appellent des cercles de deuil. Je pense notamment aux travaux de Stéphane Audouin-Rousseau sur ce sujet. En distinguant un cercle familial, un cercle d'amis et puis le cercle des compagnons d'armes. Ces discours des compagnons d'armes, ils apparaissent notamment au moment du 11 novembre, avec des discours des officiers qui, voilà, improvisant quelques mots au moment du 11 novembre, au moment de l'armistice, demandent à ce qu'on se souvienne de tous ceux qui sont morts pendant la guerre. Et ça, sans prendre la mesure de cette souffrance-là, il me semble qu'on passe à côté d'un élément essentiel de l'armistice de 1918.
Il y a bien évidemment ces solidarités avec les morts. Il y a parfois même le syndrome, ce que vous appelez le syndrome du survivant.
La culpabilité du survivant, oui. Alors ça, c'est un... On est toujours là aussi un petit peu gêné d'utiliser des termes de psychiatrie récents. La culpabilité du survivant, c'est un terme qui a été inventé dans les années 60 par un psychiatre qui s'appelle Niederland. Mais néanmoins, avec toutes les précautions d'usage, bien évidemment, et à travers les correspondances, on se rend compte que cette culpabilité du survivant est très forte et que bien souvent les soldats d'une manière ou d'une autre manifestent leur mal-être d'être là au prix d'une autre vie et ils le font comprendre très clairement, le fait qu'ils vont pouvoir vivre mais au prix parfois de la vie d'un camarade qui était à côté d'eux et qui était touché pour des raisons totalement absurde. Et ce sentiment de l'absurdité de la mort comme de l'absurdité de la survie est très, très fortement exprimé dans les correspondances.
Dans leur tête, les soldats savent qu'ils vont se séparer. Il y aura une nostalgie du front.
Oui, c'est un terme qu'a utilisé Teilhard Chardin en parlant de la nostalgie du front. C'est un terme extrêmement choquant, parler de nostalgie du front. Mais néanmoins, là aussi, paradoxalement, c'est un sentiment très profondément diffusé chez les soldats. Le fait d'avoir vécu ensemble des choses très fortes, l'idée qu'il va falloir se séparer de cette solidarité d'armes, et je pense une profonde inquiétude face à l'avenir. L'avenir, c'est bien entendu retrouver ses proches, mais est-ce qu'ils sont encore là? Est-ce qu'ils sont pareils? Est-ce qu'on va réussir à retrouver une place, sa place dans la vie civile? Est-ce qu'on va être reconnu à la mesure de tout ce qu'on a fait? Est-ce qu'on va savoir trouver les mots pour dire ce qu'on a vécu? Et est-ce qu'on va avoir en face de soi des gens qui vont être en mesure de vous écouter ou qui voudront tourner la page très très vite? Tout ça, ce sont des sentiments qui agitent profondément les combattants de 1918.
Alors ces soldats vont chercher à donner un sens à ce conflit. C'est ce que nous allons voir, Bruno Cabanne, dans un instant. Vous êtes à l'écoute de Canal Académie, un jour dans l'histoire. Je reçois Bruno Cabanne, prix de l'Académie des sciences morales et politiques, pour son livre La victoire endeuillée, paru au Seuil. À tout de suite.
Un jour dans l'histoire revient sur le sac du Palais d'été qui s'est déroulé en octobre 1860. Pourquoi le Palais d'été des empereurs a-t-il été pillé, saccagé, puis brûlé à l'issue d'une expédition militaire franco-anglaise? Réponse en compagnie de l'historien Bernard Brisé sur Canal Académie, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Je reçois Bruno Cabanne, auteur du livre « La victoire endeuillée » paru aux éditions du Seuil, et nous évoquons le sort des soldats français, des 5 millions de soldats français qui se doivent de revenir dans leur foyer, qui viennent d'apprendre que la fin de la guerre, en tous les cas l'armistice, a été sonné. Alors ils cherchent un sens à ce conflit. C'est une armée en deuil, c'est une armée en silence, et psychologiquement, ils essaient de comprendre le pourquoi des choses.
Oui, et ils trouvent, je pense, en partie l'explication dans la remobilisation dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire dans une forme d'agressivité extrême à l'égard des Allemands. Alors c'est un sentiment qui peut nous sembler très étonnant, très en décalage avec l'idée de pacifisme qui va prévaloir beaucoup plus tard, à la fin des années 20 ou dans les années 30, mais là, en 18-19, c'est cette mobilisation qui est déterminante. On continue d'expliquer la guerre comme le fruit de la barbarie allemande. Ce sont eux, dira l'article 231 du traité de Versailles, ce sont eux qui sont responsables de la guerre, qui sont responsables aussi de la manière dont cette guerre a été conduite. Et la barbarie allemande est vraiment un facteur dominant de l'explication du conflit. Alors, ça passe notamment avec un retour en force du thème des atrocités allemandes de 1914, étudié notamment par John Horne et Alan Kramer, les atrocités commises en Belgique et en France du Nord, et dont ces soldats français se souviennent fortement en 1918. Comme si le spectacle des terres détruites par l'armée allemande lors de son repli réactivait fortement le souvenir des destructions du début de la guerre. Et donc l'image du barbare est là très très forte.
Jacques Bainville dira plus tard du traité de Versailles qu'il s'agissait d'un traité moral, et cette question morale est très présente chez les soldats.
Effectivement, c'est un traité moral, mais c'est moralité-là, enfin, ce fonctionnement en termes moraux, il est très présent dans la correspondance aussi. Et l'idée, effectivement, une fois encore, de la responsabilité de l'Allemagne, l'idée qu'il faut faire payer à l'Allemagne ce qu'elle a fait, c'est quelque chose que l'on trouve non seulement au niveau des diplomates qui se réuniront à Versailles, mais aussi dans la correspondance du plus humble des soldats français.
Alors venons-en, Bruno Cabanne, si vous le voulez bien, à la démobilisation en elle-même. Quand commence-t-elle exactement?
Elle commence quelques jours après le 11 novembre, très très vite, pour les plus âgés. Alors, il faut dire d'abord que c'est une entreprise d'une complexité extrême, puisque l'armée française doit démobiliser le plus rapidement possible, bien évidemment, 5 millions d'hommes. Quand je dis le plus rapidement possible, c'est qu'il faut aussi, bien évidemment, démobiliser suffisamment vite pour que ces hommes ne soient pas lassés et qu'on n'ait pas de manifestation d'impatience trop vive au sein des troupes, mais en même temps, pas trop rapidement, pour que ne pas donner le sentiment à l'ennemi que l'on a complètement désarmé et l'on craint encore, ne l'oublions pas, une reprise éventuelle des hostilités. L'armistice, ça n'est qu'une suspension temporaire des hostilités. On est simplement le 28 juin 1919 en situation de paix. Il faut donc organiser les choses de manière la plus rationnelle possible et on choisit de démobiliser ces 5 millions d'hommes à l'ancienneté. Classe d'âge par classe d'âge.
Alors, avant de venir à cette question de l'égalité classe d'âge par classe d'âge, on est quand même surpris. Est-ce qu'il y a une imprévoyance politique ? Ou au contraire, est-ce qu'on organise les choses en créant des institutions particulières pour cette démobilisation ?
Disons que les choses vont se mettre en place relativement progressivement, mais néanmoins, le travail de Louis Deschamps, qui est chargé de la démobilisation, est un travail assez remarquable. Il y a une vraie réflexion sur ce que doit être la démobilisation.
C'est la conséquence, dites-vous, de l'intervention de Clémenceau le 6 décembre 1918.
Oui, on peut être étonné que ça soit
si tard.
Bien sûr. Mais une fois encore, il est bien facile, après des décennies, de jeter ce regard rétrospectif sur une entreprise, une fois encore, à laquelle néanmoins l'armée se préparait, bien évidemment. Mais il y avait d'autres priorités aussi à l'époque. La mise en place de l'occupation de la Rhénanie, l'entrée en Alsace-Lorraine, des pays totalement détruits. Bref, la démobilisation est un des problèmes majeurs qu'a le gouvernement à ce moment-là.
Vous racontez des anecdotes qui font un peu peur, j'allais dire même affligeantes, ces fameux stocks de vivres qui étaient inutiles pour l'armée et que délaissait l'armée et qui par ailleurs auraient pu servir pour les populations civiles.
Et qui sont laissés à l'abandon complètement. Oui, on est dans des... J'ai effectivement développé quelques exemples de ce type. On a des cas tout à fait surprenants où manifestement la machine militaire est... Voilà, prise un peu à dépourvu devant l'immensité de la tâche. Cela dit, une fois encore, ne noircissons pas trop le tableau. L'armée a réussi à démobiliser donc 5 millions d'hommes en l'espace de 18 mois à peu près, ce qui est assez extraordinaire, à un rythme soutenu. Et en respectant ce principe de la démobilisation par classe qui semblait plus juste, somme toute, aux soldats, puisque on est dans un monde en 14-18 où la classe d'âge est très importante. C'est une forme de sociabilité dans beaucoup de campagnes, c'est une solidarité entre des hommes qui partent en même temps au service militaire et donc qui sont partis en même temps aussi à la guerre, soudés par cette impression de faire partie d'un groupe. Bon. Et l'idée qu'effectivement on doit démobiliser d'abord ceux qui ont servi le plus longtemps semble tout à fait juste. Cela dit, très vite au Parlement se développent des débats, notamment de la part animés par des députés des régions qui ont été envahies, se demandant si on n'aurait pas intérêt à démobiliser d'abord ceux qui viennent de ces régions pour aider à la reconstruction, si on n'a pas intérêt à démobiliser d'abord les agriculteurs ou les pères de familles nombreuses, bref, tous ceux qui sont utiles au pays.
En Angleterre, c'est très différent.
Oui,
en fait.
En Angleterre et aux États-Unis, c'est très différent. Aux États-Unis, ça va être une démobilisation essentiellement par régiment et une démobilisation en fonction justement des besoins sociaux et économiques en Angleterre. C'est-à-dire que c'est très étonnant, mais ça c'est peut-être le pragmatisme des Anglais qui vont diffuser auprès de leurs soldats des petites fiches indiquant le type de métier qu'ils faisaient, le type de métier qu'ils veulent faire après-guerre ou leur formation. Bon. Et ensuite, en fonction des besoins de telle ou telle entreprise, on va libérer les hommes. Bon. C'était naturellement très très astucieux. En France, on choisit, comme on dit Dali, d'ailleurs, un système complètement, complètement différent.
Alors, vous opposez tout de même, Bruno Cavanne, cette notion d'égalité et cette notion de justice. Il y en a, au fond, il y a des soldats qui demandent justice parce qu'ils ont perdu un père, parce qu'ils ont perdu un frère. Il y a de nombreux cas particuliers.
Absolument. C'est-à-dire que le système est, tout en étant très simple sur le principe, extraordinairement complexe parce que vous avez ce qu'on appelle des majorations de classe en fonction de toutes sortes de cas spécifiques. Et des soldats écrivent, des familles de soldats écrivent à des responsables militaires pour demander les libération de tel ou tel, en fonction effectivement, vous l'avez dit, du fait que voilà, ils sont chargés de famille, qu'ils ont perdu plusieurs frères pendant la guerre. Vous avez une sorte de prise en charge personnelle de la démobilisation, chacun essayant effectivement naturellement d'être libéré le plus tôt possible.
Alors Bruno Cavanne, naturellement, la démobilisation s'opère en différentes phases. Est-ce que vous pourriez nous présenter matériellement, j'allais dire, ce processus de démobilisation? Quel est le parcours du soldat qui rentre chez lui?
Alors d'abord, distinguons bien deux choses, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais distinguons bien deux choses. D'abord, il y a les soldats, effectivement, et puis les prisonniers de guerre. On a 500 000 prisonniers de guerre qu'il ne faut pas complètement oublier, qui eux reviennent assez largement, enfin, pour certains par leurs propres moyens et dans un chaos à peu près complet. Bon. Mais reparlons donc plus spécialement des combattants. Eux reviennent en deux grandes phases. Une première phase qui va de novembre au printemps 1918 jusqu'au printemps 1919, avril 1919. Il y a à peu près 3 millions d'hommes qui sont libérés à ce moment-là, dans des conditions d'ailleurs très médiocres. C'est-à-dire que on les libère dans des trains de marchandises, on les fait attendre dans des camps qui ont été construits à la va-vite et qui ne sont pas du tout adaptés. Et puis en avril 19, la démobilisation s'interrompt assez largement pour faire pression sur l'Allemagne lors des négociations de paix. Elle va reprendre donc après la signature du traité de Versailles et s'achever pour les dernières classes début 1920. Donc on a à nouveau 2 millions d'hommes qui sont libérés à ce moment-là et là dans des conditions plutôt meilleures. Et bon, il serait complexe de retracer absolument l'ensemble du parcours, mais il faut bien imaginer naturellement qu'il est beaucoup plus simple de mobiliser 3 600 000 hommes en 1914 que de démobiliser ces hommes en évitant naturellement qu'on ne se trompe de train, qu'on ne les renvoie dans une mauvaise région, qu'il n'y ait des petits malins qui en profitent pour avoir deux fois leur solde payé ou qui partent, comme le disent notamment les responsables, le gouverneur militaire de la Corse, avec des brodequins neufs en plusieurs exemplaires parce qu'ils ont réussi effectivement à s'en procurer. Bref, vous avez une machine extrêmement difficile à mettre en place.
Chacun défend un peu son bout de gras.
Oui, chacun défend son bout de gras en se disant que finalement c'est légitime. Voilà, ça fait 4 ans qu'ils combattent et on leur doit bien ça. Et puis surtout avec une impatience considérable. Et j'allais dire, vous savez, en période de démobilisation, ce sont toujours les dernières heures, les dernières journées qui sont les plus pénibles. Ce qui est le plus intolérable, c'est toujours ça. C'est toujours le dernier moment parce que c'est toujours la minute de trop et on est encore plus pressé de revenir chez soi.
Est-ce que malgré tout les choses se passent dans la dignité? Parce qu'on a l'impression à vous lire qu'au fond il existe ce mécontentement. Vous citez notamment un député qui dit à l'Assemblée nationale: j'estime que l'autorité militaire ou le gouvernement aurait dû décider que pendant la durée de la démobilisation, quelques officiers combattants au retour du front seraient affectés spécialement au dépôt démobilisateur pour y recevoir les poilus, s'occuper d'eux, leur serrer la main à leur arrivée et au départ final leur dire l'affectueux merci de la France reconnaissante qu'ils avaient bien servi.
Oui, vous mettez en avant un point qui est à mon avis très important, c'est-à-dire que du point de vue symbolique, une fois encore, du point de vue matériel, je vous l'ai dit, globalement, la démobilisation s'est bien passée assez rapidement. Mais du point de vue symbolique, un certain nombre de choses ont été manquées et l'armée a commis des maladresses, notamment en faisant démobiliser les plus âgés des soldats par la classe 1919 ou 1920, qui était là simplement comme gras de papier, mais qui posait des questions sur la guerre faite par les anciens et qui était naturellement très en deçà de ce que les soldats pouvaient attendre. Ils auraient préféré certainement, comme le dit ce député, être accueillis par des responsables militaires plutôt que par des jeunes qui n'avaient rien vu de la guerre et être véritablement salués en fonction de ce qu'ils avaient fait. Et puis, il y a d'autres choses qui manquent, notamment il y a la fameuse histoire du costume abrami que l'on donne aux soldats. Les soldats étaient partis avec leur costume de ville, on leur avait fourni des uniformes en 1914, inutile de dire que tous les costumes qu'on avait stockés en 1914, il n'en restait pas grand-chose, ils étaient mangés par les mythes ou dispersés. Bon. Et donc il faut rapidement refaire des costumes. Alors, ça sera le fameux costume abrami que l'on va faire donc à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, mais comme on doit faire les choses très très vite, le plus souvent il se résume à un uniforme militaire qu'on a teint et essayé de reconstruire pour la circonstance, de retravailler pour la circonstance, ce qui fait que les hommes sont parfaitement ridicules avec ce costume, et là aussi l'humiliation rajoutée, je vous l'ai dit, au retour dans les wagons de marchandises, tout ça est naturellement très mal perçu par les soldats.
Alors Bruno Cabanne, le soldat naturellement attend une réparation, et c'est cette réparation, si vous voulez bien, que nous allons évoquer après une dernière pause.
Canal Academy vous propose d'entendre Valéry Giscard d'Estaing présenter les archives de son septennat de 1974 à 1981. Écoutez l'ancien président expliquer comment les archives de la présidence sont non pas des documents privés, mais des archives nationales. Une source majeure pour les études en histoire contemporaine. Ces émissions sont en libre téléchargement sur canalacademy.com.
Un jour dans l'histoire reçoit Bruno Cabanne, auteur du livre « La victoire endeuillée ». Alors Bruno Cabanne, nous voilà à la sortie de cette guerre. Le soldat revient chez lui et il a besoin d'une sorte de réparation. Cette réparation, selon le psychanalyste Claude Barrois, a deux phases, deux aspects particuliers.
Oui, Claude Barrois rappelle, qui est finalement psychiatre, qui rappelle qu'il y a deux aspects, un aspect de compensation des préjudices et un aspect de reconnaissance officielle des services rendus. Alors, la reconnaissance est toujours plus facile à obtenir, la compensation est toujours impossible. On ne peut pas compenser les quatre années de guerre. Et un autre psychiatre, qui lui était un contemporain, Karl Abraham, en 1918, expliquait exactement ça. Il expliquait que le sentiment de perte était tel chez ces hommes que de toute façon, les tentative de compensation était nécessairement en dessous de ce qu'ils pouvaient attendre et donc il fallait préparer les anciens combattants à cette déception. Alors néanmoins, il y a un certain nombre de tentatives pour faire reconnaître les sacrifices des combattants survivants. Les médailles jouent un rôle très important. On a tendance, mais peut-être est-ce aussi par une forme d'antimilitarisme à moquer un peu les médailles militaires, alors que de manière générale, elles jouent un rôle très important lors des sorties de guerre. Et même si certains combattants les regardent avec un peu de distance, elles servent véritablement à manifester la reconnaissance de la nation. Elles jouent un rôle très absolument considérable, donc qu'il faut bien prendre en compte, notamment la fourragère, qui est une reconnaissance collective, une médaille collective conférée au régiment et qui distingue l'action collective des soldats. Et ça joue donc une fois encore un rôle très 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 fort. Mmh. Et puis les cérémonies. Les cérémonies en Alsace-Lorraine d'abord, au moment de l'entrée des régiments en Alsace-Lorraine et ceux qui participent ont véritablement le sentiment que on reconnaît le sens de leur combat. Et puis, naturellement, les cérémonies du retour des régiments dans leur région.
Vous avez un mot très dur à ce propos. Vous dites « La distance entre les combattants qui reviennent chez eux et les civils qui les accueillent n'a jamais été aussi grande, paradoxalement, qu'au moment où les uns et les autres se retrouvent. »
Eh oui. C'est véritablement ce qui apparaît, une fois encore, quand on lit les lettres de soldats. Les uns, les civils, ont le sentiment que c'est fini. Et que c'est fini d'autant plus que leurs proches reviennent. Les autres sont marqués, on l'a dit tout à l'heure, par le deuil et portent avec eux le souvenir des combattants morts.
Alors il y a d'autres soldats, Bruno Cabanne, dont on n'a pas encore parlé. Ce sont les soldats qui partent en Rhénanie et qui foulent le sol allemand. Que ressent le Français quand il arrive sur le sol allemand ?
Des sentiments mêlés de puissance, de pouvoir enfin être au contact de l'ennemi. Une fois encore, les correspondances manifestent la volonté de vengeance et en même temps un sentiment de peur. Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que les violences commises en Rhénanie sont très en dessous des promesses des combattants dans leurs lettres. Les violences sont essentiellement des violences contre les monuments, destruction de la statue de Bismarck à Mönchengladbach ou d'un monument aux morts dans la même ville, destruction d'habitations, un peu de saccage. Mais semble-t-il, rien de très fort.
Ce n'est pas la dévastation du
Palatinat. Non, ce n'est pas du tout la dévastation promise dans les lettres. Néanmoins, on voit dans le même temps se diffuser en Allemagne, et notamment en Rhénanie, une rumeur qui porte sur le comportement des troupes noires. Cette rumeur, parfois connue sous le nom de « honte noire », porte notamment sur des viols qui auraient été commis par les troupes coloniales. Il y en a, il y a à peu près une dizaine de milliers de soldats de troupes coloniales. Or, les évaluations que j'ai pu faire montrent que les viols pour la période du début des années 20 sont vraisemblablement de l'ordre de 150, 150 ou 160, donc très en dessous là encore de ce qui a pu être dit, mais cette peur des troupes coloniales en Allemagne a été considérable. On a vu se développer des ligues pour la défense de la Rhénanie, on a vu se développer des écrits qui stigmatisaient le risque de mulâtrisation, disait-on, de la Rhénanie ou de l'Allemagne.
C'est ni plus ni moins qu'une forme de racisme.
Oui, bien sûr, c'est une forme de racisme, bien sûr. C'est une forme de racisme qui d'ailleurs ne fait que réactiver des discours que tiennent les intellectuels allemands dès le début 1914, dès l'automne 14, puisque en réponse aux accusations d'atrocité auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, aux accusations d'atrocité commises par l'armée allemande à l'été 14 en Belgique et en France du Nord, les intellectuels allemands avancent comme argument l'utilisation par les troupes françaises et par les troupes anglaises de troupes coloniales qui jugeaient, selon eux, tout à fait scandaleuse et absolument impropre à une armée civilisée. Donc naturellement, ce sont des arguments racistes, mais d'une violence absolument inouïe, avec là aussi un film, par exemple, qui sera tourné, La honte noire des Schwarzschmarrn, qui sera tourné à Berlin au début des années 20, qui sera diffusé assez largement dans l'Allemagne de cette période-là, et naturellement avec une réutilisation que l'on connaît par les nazis ensuite dans les années 30.
Il y a un choc des passions, on sent que l'imaginaire est très important à vous lire des deux côtés, autant
l'imaginaire
du côté
est déterminant,
allemand que l'imaginaire du côté français.
L'imaginaire est absolument déterminant, puisque, une fois encore, on est dans une guerre qui, pendant 4 années, sauf exception, était une guerre où l'ennemi a été largement invisible. Il y a eu naturellement des contacts, bien évidemment, il y a eu des combats même au corps à corps, mais globalement, c'est une guerre majoritairement industriel, où l'ennemi était beaucoup fantasmé plutôt que réellement vu et beaucoup haï. On a tendance à l'oublier maintenant après tant d'années de réconciliation franco-allemande, mais la haine franco-allemande est d'une violence absolument inouïe. Donc naturellement, le moment du contact, de la mise en contact des combattants allemands et français est un moment déterminant, et tout cet imaginaire de guerre nourri pendant 4 années et l'a porté presque à son paroxysme.
La confrontation est finalement plus prosaïque. Est-ce qu'on peut comparer cette confrontation avec ce qui se passera en France dans les années 40 ?
À mon sens, non. La situation est très différente. L'effondrement de la France en 1940 est un effondrement relativement rapide. Une fois encore, il s'agit là d'une confrontation qui fait suite à 4 années de piétinement dans les tranchées, à une sorte de montée en puissance de la haine de l'ennemi. Donc non, je ne crois pas, même si naturellement on peut toujours trouver des liens entre les deux conflits.
Il y a des réactions identiques
par
rapport à la vis-à-vis de la femme, par exemple.
Vis-à-vis de la femme française au moment de l'arrivée des troupes allemandes
de l'autre côté, des femmes allemandes à l'arrivée des troupes françaises en Rhénanie.
Il y a toujours un fantasme d'appropriation des femmes en période d'invasion. C'est une sorte de classique des fonctionnements de guerre. Non, ce que je voulais vous dire, c'est que le souvenir de 1914 et de cette période-là était encore très présent au moment de l'entrée des troupes allemandes à Paris en 1940, puisque vous le savez sans doute, lorsque Hitler fait entrer ses troupes à Paris, il donne un ordre, un des premiers ordres en arrivant à Paris, c'est de faire détruire la statue de Mangin, qui est du côté des Invalides, parce que Mangin était responsable, théoricien de la force noire, et responsable des troupes coloniales. Et c'est le souvenir précisément des rumeurs d'atrocités commises en Rhénanie en 1918. Donc vous voyez, 1918 est naturellement très présent encore en 1940.
Alors Bruno Cabin, nous arrivons au terme de cette émission. Après avoir fréquenté les poilus pendant une si longue période, comment réagit-on ? Comment vit-on ? Est-ce que vous en avez tiré une émotion certaine sur cette période ?
Oui, l'émotion, je pense que oui, on peut qu'être très touché par ces lettres, bien évidemment, mais comme on l'est toujours par les correspondances. Néanmoins, il y a à la fois un sentiment effectivement d'émotion, bien sûr, mais aussi un sentiment de distance. C'est-à-dire que c'est un monde qui nous est extraordinairement présent, sensiblement, mais qui, me semble-t-il, est un monde qui nous est profondément étranger. Et je veux vraiment insister sur ce point. On a un peu trop tendance, parfois, à plaquer abusivement nos modes de fonctionnement, nos modes de comportement sur un monde qui, une fois encore, est un monde ancien, avec des valeurs qui ne sont plus nécessairement les nôtres. Et il y a aussi un effort de compréhension à faire quand on est face à des lettres qui nous restent quand même relativement lointaines.
Dans les dernières lignes de votre livre, en conclusion, vous présentez la démobilisation au fond comme assez réussi, assez efficace. D'un autre côté, le titre de votre livre est La victoire endeuillée. Est-ce que vous tirez de cette période un certain pessimisme sur la nature humaine?
Incontestablement. Je pense que je n'avais pas besoin de ce livre pour avoir une forme de pessimisme sur la nature humaine. Oui, bien sûr, je pense que ce qui est frappant, mais ça c'est frappant quand on étudie la sortie de guerre, et je pense encore plus quand on étudie les atrocités de 1914, la capacité, le passage à l'acte est d'une facilité inouïe et tout à fait déconcertante pour un historien, très troublante pour un historien. Quand on étudie de près des combattants dans ce type de conflit, les pulsions de violence sont une chose, mais la possibilité, une fois encore, de les concrétiser est très, très souvent là. Et le passage à l'acte, une fois encore, extrêmement, extrêmement facile. Donc le franchissement des seuils de violence est quelque chose de finalement d'assez banal.
Eh bien, c'est sur ces paroles peu rassurantes que nous allons nous quitter. Bruno Cabanne, je vous remercie.
Merci à vous.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur du livre « La victoire endeuillée, la sortie de guerre des soldats français 1918-1920 » paru dans la collection « L'univers historique » aux éditions du Seuil. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour une émission sur Vichy. Merci et à bientôt.